Chapitre 47. Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile apparaisse. En janvier 1996, 4 mois après avoir reçu la plaque funéraire, je l'ai mise dans mon sac et j'ai dit à Philippe Toussaint que pour une fois, il allait devoir travailler, garder la barrière pendant 2 jours. Je ne lui ai pas laissé le temps de me répondre, j'étais déjà partie au volant de la voiture de Stéphanie. Une Fiat Panda rouge, avec un tigre blanc en peluche accroché au rétroviseur pour me tenir compagnie. Normalement, j'avais 3 heures et demie de route à faire. J'en ai mis 6. Plus rien ne serait normal. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois. Pendant le trajet, j'ai écouté la radio. J'ai chanté pour Léonine que j'ai imaginée 2 ans et demi plus tôt à l'arrière de la voiture des Cossins, sa coquiline dans la poche, son doudou dans les mains. Comme l'abeille, comme l'oiseau, à tire d'aile, le rêve s'envole, comme un nuage, comme le vent, à pas de lune, la nuit descend, le feu s'apaise dans les foyers, même la braise va se cacher, la fleur se ferme sur la rosée, seule la brume va se lever. En regardant les maisons, les arbres, les chemins, les paysages, j'ai essayé d'imaginer ce qui avait retenu son attention. Est-ce qu'elle s'était assoupie? Est-ce qu'elle avait fait des tours de magie? Les rares fois où nous étions montées en voiture toutes les deux, c'était dans celle de Célia et de Stéphanie. Sinon, nous prenions des trains. Nous n'avions pas de voiture, Philippe Toussaint n'avait que sa moto. Comme ça, il n'avait pas à nous emmener quelque part. De toute façon, où nous aurait-il emmenés? Je suis arrivée à Brancy-en-Chalon vers 16h. L'heure du goûter, j'ai pensé. La porte de la maison du garde-cimetière était entr'ouverte. Je n'ai vu personne. Je n'ai rien demandé. J'ai voulu trouver Léonine toute seule. Ce cimetière, c'était comme une carte au trésor à l'envers, l'horreur à l'endroit. Au bout d'une demi-heure à slalomer entre les tombes, la plaque blanche dans les mains, j'ai fini par repérer le carré des enfants dans l'aile des ifs. J'ai pensé, je devrais être en train de préparer l'entrée de Léonine en 6e, acheter des fournitures scolaires, remplir des formulaires d'inscription, lui interdire de se maquiller les yeux et je suis là comme une âme en peine. Une âme errante, plus morte que les morts, a cherché son nom sur une tombe. Je me suis longtemps demandé ce que j'avais fait de mal pour mériter ça. Je me suis longtemps demandé de quoi on avait voulu me punir. J'ai revu toutes mes erreurs, quand je n'avais pas su la comprendre, quand je m'étais énervée contre elle, quand je ne l'avais pas écoutée, quand je ne l'avais pas crue, quand je n'avais pas compris qu'elle avait froid ou chaud ou vraiment mal à la gorge. J'ai embrassé son nom et son prénom gravés dans le marbre blanc. Je ne lui ai pas demandé pardon de ne pas être venu plus tôt. Je ne lui ai pas promis de revenir souvent. Je lui ai dit que je préférais la retrouver dans la Méditerranée en août, que ça lui ressemblait beaucoup plus que cet endroit de silence et de larmes. Je lui ai promis de savoir ce qu'il s'était passé cette nuit-là, pourquoi sa chambre avait brûlé. Et j'ai posé ma plaque funéraire. Ma chérie, tu es né le 3 septembre, décédé le 13 juillet, mais pour moi, tu seras toujours mon 15 août. Parmi les fleurs, les poèmes, les cœurs et les anges. À côté d'une autre, sur laquelle était marqué « Le soleil s'est couché trop tôt ». Je ne saurais dire combien de temps je suis restée là, mais au moment de partir, les grilles du cimetière étaient fermées à clé. J'ai dû frapper chez le gardien. Il y avait de la lumière à l'intérieur de la maison, une lumière douce et diffuse. J'ai essayé de regarder à travers les carreaux, mais les rideaux tirés m'ont empêché de voir. J'ai dû frapper encore et encore à la porte, aux carreaux. Personne n'est venu. J'ai fini par pousser la porte de la maison qui était entr'ouverte. Je suis entrée en criant « Y a quelqu'un ?» Personne ne m'a répondu. J'ai entendu du bruit à l'étage. Des pas au-dessus de ma tête et de la musique aussi. Du bac, entrecoupé par la voix d'un animateur qui sortait d'un poste radio. J'ai tout de suite aimé cette maison, les murs et les odeurs. J'ai refermé la porte derrière moi et j'ai attendu, plantée là, à regarder les meubles autour de moi. La cuisine avait été aménagée comme un magasin de thé. Sur les étagères, une cinquantaine de boîtes étaient étiquetées. Le nom avait été écrit à la main, à l'encre. Des théières en terre, elles aussi étiquetées, correspondaient au nom sur les boîtes. Des bougies parfumées avaient été allumées. Une minute avant, j'étais face aux cendres de ma fille et en poussant une porte, j'avais changé de continent. Je pense avoir attendu longtemps avant d'entendre des pas dans les escaliers. J'ai vu des mules noires, un pantalon en lin noir et une chemise blanche. L'homme devait avoir environ 65 ans. Il était métissé, sans doute un mélange de Vietnam et de France. Il n'a pas été surpris de me voir planté devant sa porte. Il a juste dit « Excusez-moi, je prenais une douche. Asseyez-vous, je vous en prie. » Il avait une voix qui ressemblait à celle de Jean-Louis Trintignant. Trouble, mélancolique, douce et sensuelle. Il a dit avec cette voix-là « Excusez-moi, je prenais une douche. Asseyez-vous, je vous en prie. » Comme si nous avions rendez-vous. J'ai pensé qu'il me prenait pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas pu lui répondre car il a enchaîné « Je vais vous faire un verre de lait de soja avec de la poudre d'amande et de la fleur d'oranger. » J'aurais préféré un shot de vodka, mais je n'ai pas moufté. Je l'ai regardé verser le lait, la fleur d'oranger et la poudre dans un mixeur et remplir un grand verre de son breuvage dans lequel il a mis une paille multicolore, comme si nous étions à l'anniversaire d'un enfant, et il me l'a tendu. En faisant ce geste, il m'a souri comme jamais on ne m'avait souri, pas même Célia. Tout en lui était long, ses jambes, ses bras, ses mains, son cou, ses yeux, sa bouche. Ses membres et ses traits avaient été tracés avec un double mètre, de ceux qu'on trouve dans les écoles primaires pour mesurer le monde sur les cartes géographiques. J'ai commencé à boire à la paille, j'ai trouvé ça délicieux. Cela m'a rappelé l'enfance que je n'avais pas eue, puis celle de Léonine. Ça m'a rappelé quelque chose d'une douceur infinie. J'ai fondu en larmes. C'était la première fois que je prenais du plaisir à avaler quelque chose. Depuis le 14 juillet 1993, j'avais perdu le goût. Léonine avait fait ça aussi, faire disparaître mon goût. Je lui ai dit « Excusez-moi, les grilles étaient fermées. » Il m'a répondu « Il n'y a pas de mal, asseyez-vous. » Il a pris une chaise et me l'a apportée. Je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas parler. J'en étais incapable. La mort de Léo m'avait aussi enlevé les mots. Je lisais, mais je n'étais plus capable de dire. J'engrangeais, mais rien ne sortait. La vie de mes mots se résumait à « Merci, bonjour, au revoir, c'est prêt, excusez-moi, je vais me coucher. » Même pour passer le code et le permis de conduire, je n'avais pas eu besoin de parler, il m'avait suffi de cocher les bonnes cases et de faire un créneau. J'étais toujours debout. Mes larmes coulaient au fond de mon verre de lait. Il a imbibé un mouchoir en tissu avec un parfum nommé « Rêve d'Océan » et me l'a fait respirer. J'ai continué à pleurer comme si les vannes avaient lâché, mais les larmes que j'ai versées m'ont fait du bien. Elles m'ont vidé de vilaines choses, comme de la mauvaise transpiration, comme des toxines empoisonnées qui sortaient de moi. Je croyais que j'avais déjà tout pleuré, mais il en restait encore. Il restait les larmes sales, les boueuses, comme de l'eau croupie, celle qui stagne au fond d'un trou après qu'il a cessé de pleuvoir depuis longtemps. L'homme m'a fait asseoir et, quand ses mains m'ont touchée, j'ai ressenti une onde de choc. Il est passé derrière moi et a commencé à me masser les épaules, les trapèzes, la nuque et la tête. Il me touchait comme s'il me soignait, comme s'il posait des sparadraps de chaleur le long de mon dos et sur le haut de ma tête. Il a murmuré « Votre dos est plus dur qu'un mur. » En rappel, on pourrait l'escalader. Je n'avais jamais été touchée ainsi. Ses mains étaient très chaudes et dégageaient une énergie insensée qui me pénétrait, comme s'il promenait une légère brûlure sur ma peau. Je n'ai pas lutté. Je n'ai pas compris. J'étais dans une maison de cimetière, le cimetière où étaient enterrées les cendres de ma fille. Une maison qui me rappelait un voyage que je n'avais jamais fait. Plus tard, j'apprendrai qu'il était guérisseur, une sorte de rebouteux, comme il aimait le dire. J'ai fermé les yeux sous la pression de ses mains et je me suis endormie. Un sommeil profond, noir, sans images douloureuses, sans draps mouillés, sans cauchemars, sans rats qui me dévorent, sans Léonine qui me souffle à l'oreille « Maman, réveille-toi, je ne suis pas morte. » Je me suis réveillée le lendemain matin, allongée sur le canapé, sous une couverture épaisse et douce. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu du mal à émerger, à savoir où j'étais. J'ai vu les boîtes de thé, et la chaise sur laquelle je m'étais assise était toujours au milieu de la pièce. La maison était vide. Une théière brûlante était posée sur une table basse, en face du canapé. Je me suis servie, et j'ai bu à petites gorgées le thé au jasmin qui était délicieux. À côté de la théière, dans une assiette en porcelaine, le propriétaire des lieux avait disposé des petits financiers que j'ai fait fondre dans ma tasse. De jour, j'ai tout de suite vu que la maison du cimetière était aussi modeste que la mienne. Mais l'homme qui m'avait reçu la veille l'avait transformée en palais grâce à son sourire, sa bienveillance, son lait d'amande, ses bougies et ses parfums. Il est arrivé de l'extérieur. Il a accroché son gros manteau à la patère et a soufflé dans ses mains. Il a tourné la tête vers moi et m'a souri. « Bonjour. Je dois partir.
Où ça ?
Chez moi. Où est-ce ? Dans l'est de la France, à côté de Nancy.
Vous êtes la mère de Léonine ?
Je vous ai vue sur sa tombe hier après-midi. Je connais les mères d'Anaïs, Nadège et Océane. Vous, c'est la première fois. Ma fille n'est pas dans votre cimetière, ici il n'y a que des cendres. Je ne suis pas le propriétaire de ce cimetière, je n'en suis que le gardien. Je ne sais pas comment vous faites pour faire ça, ce métier. Vous faites un drôle de métier, enfin, pas drôle, du tout. Il a souri à nouveau. Il n'y avait aucun jugement dans son regard. Plus tard, je découvrirai aussi qu'il se mettait toujours à la hauteur des gens auxquels il s'adressait. Et vous, vous faites quoi comme métier?
Je suis garde-barrière.
Vous, vous empêchez les gens de passer de l'autre côté, moi je les aide un peu à y aller. J'ai tenté de lui rendre son sourire tant bien que mal. Sourire, je ne savais plus. Tout en lui était bonté, tout en moi était fracassé. J'étais en ruine. Vous allez revenir ?
Oui, il faut que je sache pourquoi la chambre des enfants a brûlé cette nuit-là.
Vous les connaissez ?
J'ai sorti et je lui ai tendu la liste du personnel de Notre-Dame-des-Prés, rédigée au dos d'une addition par Philippe Toussaint. Edith Croquevieille, directrice, Swann Letellier, cuisinier, Geneviève Magnan, dame de service, Héloïse Petit et Lucie Lindon, monitrice, Alain Fontanel, agent d'entretien. Il a lu les noms attentivement. Puis il m'a regardé à nouveau.
Sur la tombe de Léonine, vous allez revenir ?
Je ne sais pas.
8 jours après notre rencontre, j'ai reçu un courrier de lui. Madame Violette Toussaint, veuillez trouver la liste de noms que vous avez oubliés sur ma table. De plus, je vous ai préparé un sachet de thé mélangé, du thé vert à l'amande, pétales de jasmin et rose. Si je ne suis pas présent, prenez-le, la porte est toujours ouverte. Je l'ai déposé sur l'étagère jaune, à droite des théières en fonte, il y a votre nom dessus, T pour Violette. Votre fidèle serviteur, Sacha H. Cet homme m'a semblé tout droit sorti d'un roman ou d'un asile, ce qui revient au même. Que faisait-il dans un cimetière ? Je ne savais même pas que le métier de gardien de cimetière existait. Pour moi, le commerce de la mort se résumait à être croque-mort, à avoir le teint cireux et des habits noirs avec un corbeau posé sur l'épaule quand ce n'était pas un cercueil. Mais il y avait beaucoup plus troublant. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe et le mot. C'est lui qui m'avait envoyé la plaque. « Ma chérie, tu es née le 3 septembre, décédée le 13 juillet, mais pour moi tu seras toujours mon 15 août. » à déposer sur la tombe de ma petite Léo. Comment connaissait-il mon existence ?
Comment connaissait-il ces dates, surtout celles du bonheur? Était-il déjà là quand les enfants avaient été enterrés? Pourquoi s'intéressait-il à elle, à moi? Pourquoi m'avait-il attiré jusqu'au cimetière? De quoi se mêlait-il? J'en arrivais à me demander s'il ne m'avait pas sciemment enfermé dans le cimetière pour que je rentre chez lui. Ma vie était un champ de ruines, au milieu desquelles un soldat inconnu m'avait envoyé une plaque funéraire et une lettre. Oui, la guerre touchait à sa fin, je le sentais. Je ne me remettrai jamais de la mort de ma fille, mais les bombardements avaient cessé. J'allais vivre l'après-guerre, le plus long, le plus difficile, le plus pernicieux. Tu te relèves et tu tombes nez à nez avec une fille de son âge. Quand l'ennemi est parti et qu'il ne reste rien que ce qui reste, de la désolation, des armoires vides, des photos qu'il affiche dans l'enfance, tous les autres qui grandissent, même les arbres, même les fleurs, sans elle. À partir de janvier 1996, j'ai annoncé à Philippe Toussaint que désormais, je me rendrai au cimetière de Brancion-en-Chalon 2 dimanches par mois. Je partirai le matin et reviendrai le soir. Il a soufflé. Il a levé les yeux au ciel d'un air de dire « Il va falloir que je travaille 2 jours par mois. » Il a ajouté qu'il ne comprenait pas, que je n'étais pas allée à l'enterrement et que là, d'un coup, j'étais prise d'une lubie. Je n'ai pas répondu. Que répondra cela? Au mot « lubie ». D'après lui, aller me recueillir sur la tombe de ma fille était un caprice, une fantaisie. Christian Bobin a dit « Les mots « tu » s'en vont hurler au fond de nous. » Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais moi, j'étais pleine de silences qui hurlaient au fond de moi, qui me réveillaient la nuit, qui m'ont fait grossir, maigrir, vieillir, pleurer, dormir toute la journée, boire comme un trou, me cogner la tête contre les portes et les murs. Mais j'ai survécu. Prosper Crébillon a dit « Plus le malheur est grand, plus il est grand de vivre. » En mourant, Léonine avait tout fait disparaître autour de moi. Sauf moi.